module 7 de ce cours consacré à Azure Key Vault en pratique. Toujours avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Et on va parler dans ce module 7 d'une suite un petit peu logique de ce qu'on a fait précédemment dans le module 6. Dans le module 6, on avait vu comment utiliser des clés de chiffrement stockées dans Azure Key Vault depuis une application.
Tout à fait.
Et bien là, on va étendre un petit peu le modèle en utilisant SQL Server, cette fois-ci comme application, et donc faire du chiffrement dans SQL Server grâce à des clés stockées dans Azure Key Vault.
Azure Key Vault, le coffre.
C'est bien ça, hein ?
C'est bien ça, Pascal. C'est okay. Ça l'objectif.
On est dans une suite de scénarios pratiques de Azure Key Vault, après avoir vu dans les premiers modules de ce cours un petit peu la théorie de Azure Key Vault.
Différentes étapes, effectivement, avec l'utilisation de le préchargement de certificats dans le déploiement de machines virtuelles, l'utilisation également de certificats pour s'authentifier auprès d'Azure AD de manière à obtenir un jeton d'accès pour accéder au coffre de clés. Ensuite, l'utilisation du chiffrement de disques au niveau de machines virtuelles Azure. Donc ça, c'était notre module 4. Le module 5, c'était la partie utilisation de secrets, comme tu l'as rappelé, sur le module 6, l'utilisation de clés dans des développements. Donc ce qui nous amène logiquement à la dernière ligne, en termes d'illustration pratique dans l'utilisation. Après, on changera un petit peu de profil et on sera plutôt côté auditeur pour le dernier module de ce cours. Mais ici, il s'agit effectivement, comme tu le soulignes, de voir comment on peut utiliser les coffres de clés dans SQL Server.
Donc, dans tous ces scénarios, rappelons quels sont les principaux personnages qui vont intervenir dans l'histoire. On a toujours notre propriétaire du coffre de clés.
Qui peut être un RSSI, un responsable de sécurité, qui peut être aussi le développeur au départ, mais dans la séparation des rôles, on a effectivement, pour ce module, mais comme les précédents, la dimension, le propriétaire, et de l'autre côté, l'opérateur ou l'administrateur qui, lui, est plutôt sur l'utilisation à partir des URI, comme on l'a vu précédemment. Et puis, comme je le disais à l'instant, dans le dernier module, on se mettra dans la peau du troisième persona, qui est l'auditeur.
OK. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les modules
c'est
précédents.
C'est le même canevas, c'est plutôt du rappel.
Voilà, nos auditeurs auront fait le lien avec ce qui précédait. Donc, rentrons dans le scénario SQL Server avec cette fonctionnalité qui s'appelle TDE. TDE comme...
Alors, c'est le chiffrement transparent de données. Alors, en fait, dans la pratique, il y a trois scénarios que l'on va pouvoir mettre en œuvre avec Azure Key Vault. Il y a le scénario TDE pour chiffrement transparent des données. Transparent Data Encryption, si tu préfères l'acronyme anglais. Il y a CLE, pour Column Level Encryption. Donc, je te laisse deviner, c'est le chiffrement de niveau colonne.
Colonne, tout à fait.
On va y arriver. Et puis, Backup Encryption, donc le chiffrement de sauvegarde. Dans la pratique, en fait, ce sont trois possibilités de chiffrement qui sont proposées par SQL Server. Ce chiffrement, dans la pratique, dans les trois cas de figure, il s'agit d'un chiffrement symétrique. Donc il y a une clé symétrique qui est générée dans ce contexte-là. Et ce qui est fait par défaut au niveau SQL Server, c'est que ces clés sont protégées au sein d'SQL Server par une hiérarchie de clés. Donc tu n'accèdes pas directement à la clé, ça suppose en fait de pouvoir avoir dans la hiérarchie accès à la clé maître pour ensuite redescendre. Ceci étant, plutôt que d'utiliser une hiérarchie de clés qui est stockée au sein d'SQL Server, depuis un certain nombre de versions, et donner la possibilité de s'appuyer sur une composante qui s'appelle EKM, pour Extensible Key Management, donc gestion extensible des clés, qui te permet, dans la pratique, de t'appuyer sur un fournisseur de chiffrement externe, et dans ce cadre-là, pouvoir utiliser un couple de clés, enfin une biclé, donc chiffrement asymétrique, pour protéger en fait cette clé ou ces clés de chiffrement symétrique. Alors, ce qui est fait dans des versions classiques de SQL Server en termes de mise en œuvre, c'est que tu vas t'appuyer sur ce qu'on appelle un fournisseur de services de chiffrement, ou un cryptographic service provider.
Les fameux CSP.
Les fameux CSP qui, dans la pratique, sont le CSP typiquement d'un boîtier HSM.
D'accord.
Donc ce qui est proposé ici dans ce scénario pour l'intégration, c'est d'avoir un connecteur particulier, un connecteur SQL pour notre coffre de clés. Donc ça suppose au niveau d'une installation SQL Server d'installer ce connecteur SQL pour le coffre de clés et ensuite d'activer la partie EKM et de faire en sorte que EKM pointe en fait sur ce connecteur SQL. Et à partir de ce moment-là, plutôt que SQL aille utiliser un boîtier HSM pour faire référence à une biclé pour aller chiffrer, protéger la clé symétrique qui aurait été utilisée dans TDE, dans CLE ou dans le chiffrement de sauvegarde. Dans ce contexte-là, ça va être ta clé de chiffrement que tu aurais générée ou importée au niveau de ton coffre de clé Azure qui va être utilisée en lieu et place. Donc voilà le panorama et le périmètre du scénario. Donc en termes d'étapes, on va retrouver des choses pour nos auditrices et auditeurs qui sont assez similaires à ce que l'on a vu précédemment, comme tu peux l'imaginer. Alors après, est-ce que l'étape 1 et l'étape 2 ou inversement. Donc ça suppose en tout cas côté administrateur SQL d'aller créer ou de disposer d'une instance applicative Azure AD. Et tu as deviné, on va utiliser cette instance Azure AD. Pour lui conférer un certain nombre de droits sur le coffre des clés et en l'occurrence pouvoir aller utiliser une clé maître de chiffrement.
Une instance Azure AD, enfin une application Azure AD pour
SQL Server.
Pour SQL Server.
Pour l'instance SQL Server. Donc c'est un peu c'est le même schéma. Ton application en fait a un corollaire en termes de principal de service dans Azure AD. Ce principal de service se voit conférer au travers de la politique d'accès au coffre de clés un certain nombre de permissions. Et ça suppose ensuite, dans le cadre d'un login SQL, alors que ce soit le login sysadmin pour configurer l'environnement, comme on le verra, ou au niveau du moteur de la base de données, alors on peut créer un ou deux principaux, c'est selon que l'on souhaite différencier ces deux cas, notamment par rapport à ce que l'on verra dans le module suivant sur la journalisation, pouvoir bien dissocier au niveau des logs les opérations venant d'un administrateur versus les opérations qui peuvent émaner du moteur de base de données. Pour les besoins de la configuration, on n'utilisera qu'une seule application, mais on pourra dissocier tout à fait ces deux cas de figure. Donc ça suppose de créer l'application, c'est l'étape 1. De l'autre côté, pas de surprise, ça suppose de créer un coffre de clés, on en a déjà un depuis le début. Ça suppose de créer une clé de chiffrement, donc la clé asymétrique, RSA 2048, qui va permettre d'aller chiffrer la clé symétrique qui va être utilisée dans notre exemple pour le chiffrement transparent des données.
Qui est référé comme la clé maître ici, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Dans le schéma ?
Ouais, c'est ce qui était référé sous
2.
Forme de la clé maître. Ensuite, c'est donner des droits à l'application Azure Active Directory, le principal de sécurité qui correspond à l'instance SQL, de manière à pouvoir accéder à cette clé. Et ça, c'est étape 2. Sur l'étape 3, lorsque l'on va configurer l'instance pour chiffrer la base de données, et faire du chiffrement transparent des données dans notre illustration. Donc, l'une des trois possibilités qui est offerte en termes de capacité de chiffrement dans SQL, comme tu peux t'en douter, au travers du connecteur SQL qui est déclaré au niveau de la partie EKM, donc l'Extensible Key Management d'SQL Server, l'objectif est d'aller s'authentifier auprès d'Azure Active Directory pour obtenir un jeton d'accès au coffre de clés, et sur cette base-là, accéder au coffre de clés pour aller, alors quand on est dans l'opération de déchiffrement, pouvoir déchiffrer, donc faire un wrap de la clé ou inversement. Et puis de l'autre côté, on a notre auditeur. Donc ça sera pour le module 8, le dernier module. J'anticipais tout à l'heure un petit peu pour voir un peu ce qui se passe côté journalisation et qu'est-ce que l'on est capable en fait d'obtenir en termes d'informations par rapport aux opérations qui sont effectuées sur le coffre de clés.
Donc là, en l'occurrence, on a la clé qui ne quitte jamais le Key Vault, qui est protégée.
Donc la clé privée, en fait, la clé privée RSA ne quitte jamais le coffre de clés.
Exactement. Par contre, la clé de symétrique de chiffrement elle-même, elle est gérée dans l'application.
Elle est gérée au niveau SQL Server.
Elle est protégée, etc. OK.
Et dans ta biclé, la clé publique correspondant à la biclé est utilisable à l'extérieur, comme clé publique.
Bien sûr. Dans la démonstration, qu'est-ce que nous allons voir ? On va voir d'abord une première fois ce qu'on a déjà vu dans tous les modules précédents.
Voilà, donc on ne va pas la refaire.
On ne va pas la refaire.
C'est exactement la même chose.
Donc on a bien compris le principe, on se connecte, on crée un groupe de ressources, on crée un coffre de clés.
Voilà, donc soit en soft, soit
en HSM.
Soit en HSM, c'est un choix. Ensuite, on va devoir générer notre clé de symétrique RSA, notre clé asymétrique, RSA 2048, qui va protéger la clé symétrique qui est utilisée par le moteur SQL Server pour le chiffrement transparent des données. Alors, une petite précision à ce niveau-là. On avait vu dans, me semble-t-il, c'est dans le module 2, Pascal, si tu te souviens, qu'on avait une notion de version dans les clés.
Oui.
Dans cette mise en œuvre, à ce jour, la notion de version n'est pas supportée avec SQL Server. Donc, ça veut dire qu'il faut simplement créer une clé. Si on veut faire évaluer la clé, il faut créer une clé d'un autre nom.
D'accord, c'est le connecteur qui a cette limite-là pour l'instant.
Voilà, pour l'instant, l'état actuel, on a cette limite-là. Une autre limite sur le nom de la clé, ça suppose d'avoir en fait des lettres et des chiffres pour le nommage de la clé.
Bon, ça nous va bien.
Simplement, le noter.
Pas trop de symboles, quoi.
Donc, en tout cas, dans l'exemple, on en est tout à fait cohérent. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2, hein, dans la partie qui incombe au gestionnaire des clés.
OK.
Donc ensuite vient la création d'un principal de service dans Azure AD pour faire référence à l'instance SQL. Donc ici, à la différence de ce qu'on aurait fait précédemment, si tu te souviens Pascal, dans les précédents modules, on avait plutôt utilisé au niveau du principal Azure AD une authentification sur la base d'un certificat, de manière à dire, on a dans la configuration, on a à aucun moment on peut avoir accès en fait à la partie secret liée à l'application, puisque tu as un premier mode dans une application Azure AD pour mémoire, qui est quand tu crées une application Azure AD, elle a un identificateur client, le client ID, et elle a un secret applicatif, un secret client. Et pour faire en sorte que par exemple dans les utilisations qu'on faisait, qu'il n'y ait jamais dans des scripts PowerShell, par exemple pour le déploiement de machines virtuelles, ou dans la partie applicative, qu'on n'ait jamais à aucun moment le client ID, parce que finalement c'est ce qu'on avait expliqué dans les modules précédents, ça revenait finalement à protéger des secrets, en remettant quelque part un secret pour accéder à ces secrets, on n'avait pas gagné grand-chose, donc on avait une authentification par certificat, où finalement on mettait une information qui est somme toute publique, qui est l'empreinte du certificat. Mais la bi-clé est stockée dans le magasin de clés de la machine. Ici, on n'a pas cette possibilité aujourd'hui, donc ça suppose en fait de créer une application, on va dire de façon, si je puis dire, classique, ou la voie dont on le fait généralement. Donc ici, on le fait dans le script avec un petit générateur de secret, on le verra au-dessus. Alors l'autre point qui est important à ce stade dans la configuration qui est à noter, à l'issue de la création du principal de sécurité, on va obtenir en fait deux choses. On a un identificateur client et on a un secret client. On va avoir besoin en fait de cette information, comme tu t'en doutes, dans la configuration d'SQL. Mais par contre, on va y avoir besoin d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un champ pour rentrer l'identificateur client et ensuite un second champ pour rentrer le secret. En fait, on va fournir cette information concaténée. Donc, on va fournir l'identificateur client concaténé avec le secret. Donc la taille est toujours fixe puisque l'identificateur client est un GUID, d'une taille qui est connue. Et sur cet identificateur client, il y a une opération supplémentaire qui est à faire au préalable, qui est supprimer tous les tirets. Bon. D'où sur la capture d'écran, tu vois, par rapport à l'identificateur client. Donc tu as identité ID client, de point l'identificateur client tel qu'il est donné par le résultat du script. Et à côté, après les deux autres points, c'est la version telle qu'il faut la prendre en fait, dans la configuration pour SQL Server. Donc en fait, la partie en majuscule sans les tirets, c'est ce que l'on va utiliser en concaténé ce que tu as en dessous, le secret client. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir cette partie sans les tirets et on va ajouter directement le secret client à la suite.
Okay.
SQL Server fait sa toutouille, parce qu'en fait, il s'attend à une certaine longueur pour la partie identificateur client, et il va faire la découpe lui-même.
Ok, c'est clair.
Donc c'est une petite opération, donc il faut simplement l'avoir à l'esprit, c'est comme ça que ça se configure.
C'est comme ça que ça marche.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, précision étant en fait, on peut aller un petit peu plus dans les étapes.
Donc, on va autoriser cette instance, donc cette application qu'on vient de déclarer, à utiliser les clés.
Donc, on va lui donner les droits. Donc, comme on l'avait vu dans le module 6, si tu te souviens, Pascal, on est bien dans les permission to key. Donc là, on va lui permettre d'obtenir des informations dessus, de lister et de faire des opérations de type wrap, unwrap.
Get, list, wrap, unwrap. Et wrap, unwrap, on rappelle, c'est donc le chiffrement, le déchiffrement.
Pour les clés symétriques, donc c'est la protection de la clé symétrique. Donc le wrap key, ça va permettre de chiffrer la clé symétrique, et le unwrap key, ça va permettre de déchiffrer la clé symétrique.
OK, c'est clair. Ensuite,
donc ça c'est la préparation. Donc ça c'est la préparation côté coffre de clés. Donc tu vois, il n'y a rien de particulier par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Enfin, rien de particulier, si ce n'est les petits commentaires que j'ai pu faire dans le déroulé. Mais en tout cas, dans la philosophie, c'est quelque chose de très proche. Donc ensuite, reste à aller déployer dans Azure, reste à aller déployer une machine virtuelle. Donc là, on a, comme tu le sais, aujourd'hui, avec le nouveau portail d'Azure, on a deux possibilités. Soit on déploie une machine virtuelle de façon classique, telle qu'on le faisait avant, soit on la déploie au travers du gestionnaire de ressources. La partie
on
ne
va pas se gêner.
Donc là, on va plutôt l'utiliser. Alors, on est en 2016, effectivement, on va plutôt l'utiliser avec le gestionnaire de ressources. Et le point qui est intéressant avec le gestionnaire de ressources, c'est que dans le déploiement avec le gestionnaire de ressources, toute la partie préconfiguration du connecteur SQL pour le coffre de clés est intégrée en fait dans le gabarit qui est proposé. C'est-à-dire que plutôt que d'aller télécharger le connecteur SQL pour le coffre de clés, déployer sa machine virtuelle indépendamment, ensuite aller intégrer et installer le connecteur SQL à l'intérieur, tout ça en fait est fait pour toi au départ. Avec une préconfiguration des éléments liés à l'application, à l'idée de client et au secret associé. Donc on va le voir en démo.
C'est ce qu'on voit en bas à gauche, là, SQL Server 2014.
Oui. Voilà, donc si on choisit la partie Resource Manager, effectivement.
Voilà, avec Azure Key Vault.
Donc il y a une petite partie qui est pré-câblée. C'est ce que l'on voit en fait ici dans l'image SQL qui t'est proposée. Tu as une rubrique en fait qui s'appelle qui est Azure Key Vault et qui permet d'aller pré-renseigner ces éléments. Enfin, on va le voir tout de suite après.
J'aurais bien fait un zoom, mais j'ai pas fait ce qu'il faut. On va le voir juste après.
Oui, on va le montrer.
C'est le principal.
C'est le principal.
C'est le principal. Donc, une fois qu'on a créé notre machine virtuelle avec les bons paramètres qui vont bien.
Donc ensuite, la machine se déploie. Mm-hmm. Donc une fois qu'on a renseigné les éléments, tu arrives sur l'écran final dans le portail, dans la dernière lame, qui te dit voilà tous les éléments que vous avez rentrés, est-ce que vous êtes d'accord pour déployer la machine. Le Resource Manager d'Azure, le gestionnaire de ressources d'Azure déploie la machine virtuelle. Ça prend sur une machine SQL, ça prend un petit moment, comme tu peux t'en douter, ça prend une petite dizaine de minutes. Et à l'arrivée, on a une machine dans laquelle a été installer le connecteur SQL Server pour le coffre de clés. Ce connecteur SQL Server a été enregistré vis-à-vis de la composante KM, on rappelle Extensible Key Management. Donc elle est déjà prête à l'usage avec finalement la partie coffre de clés qui est activée comme un fournisseur cryptographique externe vu de KM. Et on a une définition en fait en termes d'information d'authentification qui est déjà pré-enregistrée. C'est ce qui est surligné dans la capture d'écran. Donc les auditrices et les auditeurs téléchargeront la présentation pour voir en fait cette partie. Il y a un sysadmin qui est crème, je crois, de mémoire, qui est pré-créé en termes de crédentité dans SQL Server. Donc ce que l'on aura à faire tout de suite après. Déjà pour finir la configuration, c'est associer en fait cette information d'authentification de l'application Azure AD qui correspond à l'instance SQL. Comme c'est affiché ici, il faudra l'associer au login de l'administrateur SQL. Donc ça c'est cette étape qui est à faire. Donc dans la pratique, on rebook par rapport au déploiement standard. Quand tu as installé, si on n'était pas passé par le gestionnaire de ressources Azure, on aurait dû installer le connecteur SQL, et dans le répertoire d'installation du connecteur SQL, tu as un dossier sample, je le montrerai tout de suite après, dans lequel tu as un certain nombre de scripts. C'est les scripts qui étaient rappelés en termes de avant, c'est les scripts, donc c'est ce qui est l'équivalent qui a été fait directement dans le modèle. Donc si on reboucle par rapport à cette procédure, donc il faut faire cette association, ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite, suivante, ça suppose, pour l'illustration, ça suppose de disposer d'une base de données. On va créer une base de données.
Jusque-là, tout va bien.
Donc jusque-là, rien de particulier. Et là, justement, c'est là où on reboucle sur les scripts exemples qui sont fournis dans le connecteur. Puisque le connecteur a été préenregistré, on va avoir sur disque le répertoire avec les binaires du connecteur, le répertoire sample que j'évoquais. Et dans le répertoire sample, on a un tdesample.sql. Donc c'est un script SQL, un transact SQL qui est prêt à l'usage pour le chiffrement transparent des données. Et c'est ici que l'on va créer finalement la clé asymétrique qui va pointer sur la clé de chiffrement asymétrique qu'on a créée dans le coffre de clés.
Mmh. OK.
Et là, on retrouve en fait, en termes de fournisseur, le pointeur sur l'association qui aura été pré-créée dans l'installation automatique de la machine.
Donc là, on a créé la clé et ensuite on active.
Ensuite, ça c'est la partie numéro 2. Donc là, on va, deuxième étape, on va associer au moteur de la base, donc on va associer au login la clé en question. Et c'est là qu'on va créer à nouveau un credential décret d'identité pour la partie chiffrement au niveau de la base, avec qui se termine par le alter login add credential au niveau du moteur base de données.
Okay.
Et dans l'étape suivante, c'est là qu'on va activer le chiffrement au niveau de la base de données.
OK. Donc avec le set encryption on à la fin. Voilà.
Avec le set encryption on à la fin. Et si tout va bien, eh bien à l'issue de l'opération, la base est chiffrée. Et on peut le vérifier assez simplement. Donc, si tu vas voir en fait sur la partie 6 databases en utilisant master, si tu vas voir lister en fait toutes les bases et tu regardes le flag is encrypted, eh bien si tout va bien, à la fin, ta base en fait apparaît comme étant chiffrée avec un is encrypted à 1. Donc voilà les étapes. Tu veux qu'on essaye de revoir
étapes,
un petit peu ça de façon
les étapes.
Pratique. Voilà. Revoir, ça fera une révision.
Alors.
Donc pour mémoire, ça suppose de se connecter, donc de faire un login Azure RM Account. Hein. Ensuite, de positionner la souscription. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On a créé un groupe de ressources. C'est fait. On a créé un coffre de clés dans le groupe de ressources, c'est fait également. Mmh. Alors, simplement ce que j'ai dans le script, j'ai une petite fonction qui permet de générer une clé symétrique qui va être notre mot de passe pour l'application.
Donc, d'accord,
générer symétrique key. Hein. Je fais juste cette petite mention parce qu'on va l'utiliser en fait dans la pratique juste là.
Oui, d'accord. Comme on a vu tout à l'heure dans les slides.
Donc là, on va réexécuter ça tranquillement, Pascal. Donc, on va créer la plage de validité, hein, comme précédemment. On va lui donner un nom. Alors, j'espère que par rapport au module précédent, je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. J'ai créé quelque chose qui n'existe pas déjà. Voilà. Donc, ça renseigne les champs. Ça, c'est les champs de base, en fait, qu'il faut fournir pour l'installation. Donc, c'est là qu'on appelle pour la déclaration de notre application. Donc là, c'est là qu'on invoque notre petite fonction.
Oui, pour avoir ton nouveau mot de passe.
Oh. Alors,
qu'est-ce qu'il dit, command not found? Oui, est-ce que tu as déclaré la fonction? Est-ce que tu as exécuté la déclaration de la fonction?
Non. Voilà, c'est ça, tu vois. Bien vu.
Voilà.
Ça devrait être beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que si on exécute le script dans l'ordre, hein, c'est toujours mieux. Hop là. Ah, tu vois, ça marche nettement mieux. Donc là, on va retrouver la création de notre application. On retrouve en fait tous nos paramètres et le mot de passe à la fin. Voilà. Le principal. Voilà, donc si on va voir côté Azure Active Directory. Au rafraîchissement près.
Donc là, on est obligé d'aller sur l'ancien portail pour Azure AD. Hein, toujours.
Oui, tout toujours.
Pour l'instant.
Pour l'instant, ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, oui. On pressait s'abstenir, Pascal.
C'est normal. C'est l'effet démo.
Voilà. Alors, on est dans les applications que mon organisation possède, puisque pour le moment, elle n'a pas encore été utilisée. Et on a effectivement ici, comme tu peux le voir, Pascal, notre SQL Server 2014 MVA. C'est plutôt rassurant. Hein. Voilà.
Avec son client ID.
Avec
et ses dates.
Donc le client ID, donc l'opération qui est à faire, si tu te souviens, c'est que ici, si on remontre pour nos auditrices et nos auditeurs.
Oui, il faut mettre ça en majuscule et s'en tirer.
Voilà, on va se le faire. Hein.
À la main.
À la main. Donc voilà la première étape. La deuxième étape, on l'a, Pascal, ici, puisqu'on a généré nous-mêmes le secret. Tu vois que dans le portail, on n'y avait pas accès. On a généré nous-mêmes le secret, donc on va lui demander, le voilà. Donc on concatène. Et voilà l'information qui va être à fournir. Donc si on revient juste dans le portail, hein, on retrouve bien ce client. Par contre, tu vois le secret qui a été généré, on ne l'a plus, parce que si on voulait l'avoir, il aurait fallu le créer à ce moment-là. Et il n'y a qu'au moment où tu le crées que tu peux le voir dans le portail. Donc voilà pour cette première partie. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Enfin, deux choses essentielles. La première chose, c'est peut-être de donner des droits à notre instance SQL Server, enfin notre principal de service pour l'instance SQL Server. Mm. Donc, c'est désormais chose faite. Et puis, ça serait bien que l'on crée notre clé. Qu'en penses-tu ? Voilà, et puis on va aller.
Add Azure Key Vault Key, ça crée une clé, voilà, ok. Voilà.
Alors ici, bien évidemment, on la génère directement dans le coffre de clés. On aurait pu, comme on l'a illustré, si tu te souviens, dans le module 2, on aurait pu importer un fichier PFX. Mm-hmm. C'était une autre possibilité.
Oui. Oui, c'est vrai.
Hein, on aurait pu faire ça de la même façon. Et puis si on avait en local, par exemple, un boîtier HSM Thales, on aurait pu utiliser, alors condition d'avoir un coffre de clés qui est l'option HSM, hein, on aurait pu utiliser, voilà, premium, tout à fait, on aurait pu utiliser le Bring Your Own Key. Mm. Hein, tu te souviens, le transcodage entre les deux mondes de sécurité, le monde de sécurité du boîtier HSM en local versus le monde de sécurité du boîtier HSM, enfin, l'environnement HSM qui est utilisé au niveau des coffres de clés. Et cette procédure de transcodage qui a été dans le domaine de sécurité, qui a été écrite par Thales dans ce contexte pour réaliser les opérations de Bring Your Own Key. Donc, ce qui serait d'ailleurs plus intéressant dans un environnement de production, puisque là, comme on ne peut pas réexporter la clé privée de facto, c'est plus intéressant de maîtriser ça en local, soit au travers de l'import d'un PFX, soit au travers du Bring Your Own Key. Et si on regarde notre petite clé. Donc on a bien en fait un Litware Master Key.
Ok.
On passe à la machine virtuelle, qu'est-ce que tu en penses ?
Allez.
Hein ? Donc on va aller voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va prendre SQL Server, hein, ça tombe bien. Donc on a dit les deux cas de figure, hein, classique où il faut que tu fasses ton installation. Donc si on choisissait classique, en fait il faut descendre ce composant. Hop. On va pas y arriver. J'ai sorti les moufles là tout d'un coup.
Mais on a vu. Oui, voilà. SQL Server Connector for Microsoft Azure Key Vault. Donc si on est en classique, on est obligé de passer par là parce que
donc il faut déployer sa machine virtuelle normalement, et puis depuis la machine virtuelle ou en copiant dans la machine virtuelle, il faut copier le MSI correspondant à ce connecteur, ensuite l'exécuter et ensuite faire l'enregistrement vis-à-vis de KM. Donc un certain nombre de choses qui sont faites pour nous dans le modèle. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Donc on va l'appeler SQL1 par exemple. Allez, on va faire un administrateur Azure. Attends, qu'est-ce qui lui plaît pas? On ne respecte pas la procédure.
La patrouille des mots de passe t'a rattrapé là.
Ouais, j'ai l'impression, hein. Bon, bah voilà. Soyons forts alors, c'est ça. Donc ici, bah, créons un nouveau groupe de. Bon, on va le faire dans l'ancien, allez, on va faire ça dans. On va mettre ça dans le même endroit. On devrait avoir un autre
dans un groupe de ressources.
Litware, bah, celui-là par exemple. Hein. Mm-hmm. Hein, c'est bien comme ça. Ok.
Une taille, donc ça c'est en fonction de.
Hein. Voilà, donc il faut. Par contre, en version standard.
On ne va pas tout dépenser trop quand on est en test.
Non, écoute, pour mes deniers personnels, prenons quelque chose de pas cher.
Petite DS14 Non.
Non, faisons.
Ouais, non. C'est quand même un SQL Server, donc il faut quand même pas une 1. Mais...
Ouais, mais bon.
Et bon, cela dit, peu importe.
Ouais,
ça on va pas.
Attends, on va prendre une. Prendre une A2, non ça...
Ouais, très bien.
Ou une A1, allez, on va prendre une A1. Je sais. Donc ici, SQL1. Bon, rien de spécial. Hein. Donc, Diac Storage, je sais bien. Donc là, on va lui en mettre un. On a un compte, on va faire ça proprement. Voilà, on va mettre ça dans le compte.
Un compte de stockage, oui.
Un compte de stockage. Voilà, et c'est là que, ici.
On a, en quatrième étape, voilà, les paramètres SQL Server.
On a l'intégration Azure qui Vault.
Donc voilà, ils ont intégré dans le template,
directement,
ARM, le paramétrage du connecteur Azure qui Vault.
Voilà.
D'où l'avantage d'utiliser le mode ARM. Donc, on l'active, enable, et on lui donne des paramètres. Donc, son URL.
Alors, donc il faut l'URL du Key Vault. Donc, on va aller rechercher ça dans. Donc c'était ici. Donc ensuite, comme tu peux le voir, il faut. Alors, dans la version template, par contre, on aura besoin de la version condensée dans le script un peu plus tard. Dans la version template, on te demande l'ID client tel qu'il a été enregistré. Mm-hmm. Donc là, on te le fait dans la version simple. On te demande derrière le secret client tel qu'il a été. Généré, donc c'est notre password hein, dans la pratique. Donc là on est en version décomposée, mais ensuite pour la base de données il faudra de toute manière qu'on ait celui qu'on a créé tout à l'heure qui est bien dans la forme telle oui. qu'on l'a vu. Et puis là donc l'intégration va créer un credential, donc c'est là qu'il faut choisir en fait le nom, c'est notre sysadmin KM cred tel qu'on l'a dans les scripts. C'est le nom qu'il faut utiliser à ce niveau-là. Donc si on va. Si on reprend notre environnement, donc c'est celui-ci, on va le copier.
Donc le client ID.
Voilà. Le secret, on l'a dans la fenêtre un peu plus haut. C'est lui. Voilà. Et alors, le nom, par défaut, si on lui donne ce qui est, je crois que c'est celui dans nos scripts exemple de mémoire, c'est sysadmin kncred, on adaptera, mais voilà, ok. Ok. Donc là, on a la phase de validation. La validation est passée avec tous les éléments. Et il n'y a plus qu'à, on est parti, on est en train de déployer. Donc, au passage, pendant le déploiement, un certain nombre de ressources pour aller voir cette configuration, notamment avec les templates. Il suffit d'aller sur la documentation ARM, donc documentation template, en mettant le mot-clé Keyvolt. Okay. Donc, il y en a pour un petit moment, Pascal, hein, je disais une petite dizaine de minutes, donc on va peut-être pas faire patienter nos auditrices et nos auditeurs 10 minutes avant que la machine daigne se déployer. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur la même, qui est déjà déployée, donc elle s'appelle pas SQL1, elle s'appelle SQL2.
Voilà, prête à l'emploi.
Prête à l'emploi. Donc, à l'issue de l'installation, et une fois que la machine a été déployée, qu'est-ce que l'on a dans la pratique? On a, comme je l'indiquais, le connecteur SQL pour Azure Key Vault, donc pour le coffre de clés, qui a été déployé dans la machine, exécuté, donc installé et configuré. Donc on a le fameux répertoire, enfin fameux, je ne sais pas s'il l'aime, mais en tout cas pour les exemples de mise en œuvre, on a le dossier sample dessous, où on va retrouver nos exemples clés avec un petit README qui explique en fait quel script permet de configurer quoi. Dans notre exemple, je te le rappelle, on est dans le chiffrement transparent des données. Donc ça, c'est la première partie. Et nous, dans notre cas de figure, on va finaliser l'installation, donc les credentials. Ah, tu te rappelles, hein, il faut associer au login de l'administrateur les credentials qui ont été créés. Donc c'est le petit nom que j'ai rajouté juste avant, hein, le sysadmin underscore okmcred. Donc à l'issue de l'installation, c'est ce qui va être pré-créé. Et ensuite, bah, il suffit d'exécuter, il suffit le script TDO sample en faisant les modifications d'usage. D'accord ? Donc pour ceci, ben, il suffit de lancer, alors soit on double-clique, on exécute directement Management Studio, soit ben, on l'exécute en fait depuis son dossier. Hein, il est sous SQL Server 120 Tools Bin Management Studio et c'est l'application. Hop, si on descend, tac 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 tac. J'ai mis les moufles, hein, SMS, S. Donc c'est cette application, je me suis connecté. Donc l'écrit d'identité sysadmin okmcred, à la différence près que quand je les ai saisis précédemment, j'ai mis un okm en minuscule, là je l'ai mis en majuscule dans le lancement, mais c'est ce qui est créé à l'arrivée. Et ce que l'on veut faire, c'est associer en fait au login de l'Azure Admin. Donc dans le cas précédent, ça serait au SQL1 anti/slash Azure Admin, hein, puisque notre machine s'appelle SQL1, dans celle qu'on a lancée. Eh bien, c'est simplement exécuter ce script, alors qui fait quoi, qui derrière va te permettre, alors une fois qu'on a associé, donc on avait permet d'associer donc ces crédentités sysadmin de kmcred, donc la valeur que tu as passée dans le modèle de machine virtuelle ARM, c'était le dernier paramètre, l'associer à l'identité du coffre de clés. Et là, tu retrouves en fait ben, l'équivalent, c'est notre valeur en fait que l'on a créée, c'est celle-ci. Voilà, c'est pour ça que je disais que tu en avais besoin le coup d'après. Donc c'est cette valeur-là qu'il faudrait remplacer dans le script avec le fournisseur, donc, qui s'appelle donc, le connecteur SQL pour le coffre de clés configuré avec EKM. À l'issue de l'installation dans le gabarit, il s'appelle en fait Azure Key Vault underscore EKM Prof. Et là, il faut l'associer au login de l'administrateur de la machine. Donc dans notre exemple, celle qu'on est en train de déployer, ça serait SQL1, parce que la machine s'appelle SQL1. Ici, celle-ci s'appelle SQL2, donc c'est SQL2. Et dans notre exemple précédent, donc simplement pour que les choses soient claires, par rapport à ce qu'on a créé, par rapport à l'exemple précédent, il suffirait d'avoir ça. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Donc pour l'exécuter, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas la même machine, il faut simplement faire « execute ». Mais là, c'est déjà configuré.
C'est déjà fait.
Alors, ensuite, ben, c'est là qu'on va configurer cette fois la partie chiffrement au niveau de la base. Donc là, on va créer une clé asymétrique par rapport à la clé que l'on a créée dans le coffre de clés, la clé de chiffrement. Ensuite, on va modifier le login pour associer au login cette clé de chiffrement. Et ensuite, on crée donc un OKM TDE CRED. Donc c'est ce qui a été créé ici. Donc on ne va pas le réexécuter. Le résultat de ce bloc-là, ça donnerait secret d'identité. Donc pareil, on retrouve associé au Key Vault et associé, ben, on retrouve l'identificateur client et le secret. Donc tout à l'heure, si tu te souviens, Pascal, en introduction, je disais, on pouvait créer deux principaux de sécurité en Azure AD. Un pour l'administrateur qui fait la config et un deuxième pour le moteur de la base de données. Donc c'est là où typiquement, si on avait créé les deux, ici j'aurais un secret qui correspondrait au premier principal de sécurité, celui qui est associé à sysadmin, et c'est là que j'aurais en fait un deuxième secret. Une deuxième chaîne pour qui correspondrait moteur. Pour le moteur qui correspondrait à ma deuxième application Azure AD. C'est ce qu'on n'a pas fait précédemment, mais le bloc de ligne de commande, hein, pour que les choses soient claires, j'aurais pu en fait cette partie, j'aurais pu l'exécuter deux fois en donnant ici un autre nom. Hein, là, j'aurais pu mettre par exemple ici sysadmin. Hein. Donc je l'exécutais une première fois. Et puis ici mettre DB Engine et puis l'exécuter une deuxième fois hein, si on avait voulu avoir ce type de configuration. Et ensuite donc comme pour le login on l'associe hein, de l'admin au moteur et ensuite ben, c'est là qu'on dit ben, sur la base de données qu'on a créée, donc on a créé cette base de données ici. C'est là que j'associe, en fait j'active le chiffrement de clé. Donc là je dis que je veux en fait créer une clé de chiffrement symétrique. Donc là je crée la clé de chiffrement et je dis que la clé de chiffrement elle va être chiffrée au niveau serveur par la clé asymétrique que j'ai définie ici et qui est ma clé de chiffrement qui est dans le coffre de clé. Et OKM y a accès, puisqu'en fait, je lui permets de s'authentifier vis-à-vis d'Azure Active Directory, vis-à-vis de l'application, sur la base en fait, de l'ID client et du secret applicatif, qui permet à l'instance SQL d'obtenir un jeton d'accès pour accéder au nom du principal de service dans Azure AD, qui correspond à l'instance SQL, au coffre de clés. Et comme on a défini précédemment la politique de contrôle d'accès qui va bien, ben, du coup, OKM il a accès. Donc voilà, si on essaye de rembobiner une autre fois les différentes étapes.
Il faut s'accrocher, mais on y arrive.
Là, ben, on dit que cette fois, maintenant qu'on a fait, la configuration, on a créé la clé symétrique, on a dit que la clé symétrique, elle était protégée avec la clé symétrique qui se trouve dans le coffre de clé, et on a défini ben, tout ce qui va bien pour y accéder. Là encore, si je prends tout ce bloc jusqu'en haut et que je fais execute, ça va faire la configuration. Elle est faite, donc je ne le refais pas. Et normalement, le résultat, et c'est rapide, c'est simplement de voir au niveau de la base ce qui se passe.
Donc là, tu listes les bases en affichant la colonne
is encrypted. Et on voit que l'Itware 369 database est chiffré.
C'est magique. Donc ça fonctionne.
Voilà.
Donc tout ce qu'on va stocker dans cette base sera chiffré.
Bah, de facto.
Protégé.
Donc je ne sais pas où on est notre petite install. On peut voir si on était suffisamment bavard ou pas. Je ne sais pas, Pascal, on va voir. Non, elle est encore en train de se déployer, mais bon, il n'y a rien de plus à ajouter, je pense. Si
ça montré, non, mais l'important, c'est d'avoir vu les étapes de configuration du modèle.
Que ça pourrait l'être, mais.
Eh bien, magnifique. Donc on a vu l'ensemble du procédé.
Oui.
Du début à la fin. Pour aller plus loin, ben on a quelques pointeurs que tu as rassemblés ici sur la dernière slide. On peut voir également qu'on peut toujours essayer gratuitement Azure Key Vault, hein, comme la plupart des fonctionnalités d'Azure en allant sur le site en bas à droite ici. Et puis écoute Philippe, je te donne rendez-vous pour le 7e et dernier module. Le 8e, pardon, et dernier module. Très bientôt.
Merci Pascal.
Merci, au revoir.